tienes que realitzar en nom de l'ambient, salto a, et tot diré, gaur-ho, baionarà. De dir, presentatuko ditu nire noveti mai dirien direna. Nik ere aldetik, eskortuntu derakundiaren izenean, nahi duke nire eske jaundi bat eman, dedin. Nahi duke ere eman zendako zekatik antolatu dugu horako debatea. Uroski eskualegia. Hainitz elkarte, hainitz artista, ari dira gure kulturaren biziarazte. Bai dantzan, bai kantuan, bai hainitz arloka. Baina, eta uroski ere, badira ez da barak. Batzuek sobera modernoa, beste batzuek sobera tradizionalak. Eta batzuetan, erakundeari galdeiten zaio, bere iritzia egia. Egia zer da egiazko kultura. Ez doakio guri erakundeari erraitia norma bat denen emaitia. Baina guri doakio ez da barak antolatzea. Baina ez da barak ez da barak antzu horiek, baina hasten diren ez da barak horiek. Gau hemen direne, hasiko gertuzte, bere gogo eta gira. Eta hemen dikaterako gira ez berdin aha postu batzuekin, baina bederen, aintzinatzeko gogoari. Hori dut, espero, hori dut desiratzen, gau aratxean, gertatuko dela. Begiz ere bidezko.
Minesker Mikel, ta Minesker Deneri, Totsagatik. Puis avant que j'oublie, je voulais remercier Kites et Peyo qui permettent de jongler entre les langues ce soir avec un système perfectionné. Les Basques sont-ils prisonniers des traditions dont ils se revendiquent ? Une tradition est-elle un enfermement ou bien un moteur de création? Ou bien est-ce que la question est absolument inintéressante? Il faut rester ouvert à toutes les possibilités. Mais à vrai dire, ces questions sont quand même, votre présence le montre quand même, de celles qui agitent aujourd'hui la culture basque. Ce sont des questions que se posent les artistes, les opérateurs culturels, les représentants politiques qui prennent la chose au sérieux, et finalement, qui concernent aussi tous ceux qui s'éprouvent en relation, quelque part, avec la culture basque. Évidemment, ces questions ne sont pas propres au Pays basque. Elles concernent toutes les cultures minoritaires. Or, le discours produit sur ces cultures-là oscille bien souvent entre une valorisation mythique de ces cultures qui sont chargées de représenter un indice de la richesse de l'humanité et en même temps une dévalorisation critique de la façon dont elles représentent cette chose-là. C'est un trait de culture, mais ce n'est pas de l'art. Ce qui se joue ici, c'est un jeu entre les deux acceptions du mot culture, la culture au sens des anthropologues d'un côté, la culture au sens humaniste de l'autre. Dans un cas, le mot culture désigne ce tout complexe qui comprend la connaissance, les croyances, l'art, la morale, le droit, les coutumes et les autres capacités ou habitudes acquises par l'homme en tant que membre d'une société, selon la définition canonique de Taylor en 1871 dans son Primitive Culture. Dans l'autre cas, le mot culture désigne un ensemble de belles œuvres de musique entrée dans nos prestigieuses salles de concert, de tableaux entrés dans les musées les mieux dotés, de pièces de théâtre inscrites au répertoire, de films, de sculptures, de spectacles chorégraphiques estampillés en marqueur d'une culture élitaire, celle pour laquelle un ministère de la Culture reconnaît qu'elle nécessite, je cite, « des apprentissages vrais, longs et nécessaires ». Or, comme le suggère l'anthropologue Marshall Salins Dans un rapport qu'il a remis en 1996 à l'UNESCO pour préparer cette fameuse convention de 2003 sur le PCI, patrimoine culturel immatériel, je cite, « L'amalgame entre la culture au sens humaniste du terme et la culture dans ses acceptions anthropologiques est source de bien des confusions dans les discours des chercheurs comme dans celui des responsables politiques. » Alors, quand on parle de culture basque, de quelle culture parle-t-on ? De la culture au sens anthropologique ou de la culture au sens humaniste ? Ou les deux à la fois ? L'Institut culturel basque prend ces questions au sérieux. Et nous allons essayer ce soir de les formuler d'une manière qui permette de fabriquer peut-être de nouveaux moteurs d'engagement pour chacun. Grâce à la présence d'une artiste, d'une opératrice culturelle, d'une ethnologue et d'un sociologue, qui ont tous en commun d'être au sommet de leur art à un niveau international. Nous allons nous y prendre de deux façons. Nous allons nous y prendre de deux façons. D'une part, il s'agira d'apporter des témoignages sur cette manière qu'ont les Basques d'être Basques aujourd'hui, par l'engagement culturel. On va s'en tenir à ça. D'autre part, il s'agira de porter notre regard au loin, mais vraiment loin, et d'esquisser une analyse distanciée pour le coup, en apportant des témoignages sur d'autres situations où ce type de questions se posent, que ce soit en Amazonie, avec Anne-Christine Taylor, que ce soit en Allemagne, avec Birgit Ellinghaus, ou que ce soit chez Tocqueville, Descartes ou Chomsky, avec Gérard Lanclus, qui n'a pu rejoindre Bayonne faute de train, mais qui m'a autorisé à lire ce soir l'intervention qu'il avait prévu de nous lire lui-même. Désolé pour cet ersatz. Le temps qui nous est imparti ce soir est très court, puisque nous devons rendre la salle à 20h45. Nous avons donc choisi une forme brève, à dessein, d'une part parce que le débat mérite, me semble-t-il, d'être dynamique, d'autre part parce que nous aimerions multiplier les rencontres comme celle-ci. Chacune des interventions ici devrait durer 10 minutes. Et après quoi, donc, nous aurons un peu de temps, une vingtaine de minutes, j'espère, pour échanger avec vous. Et la règle qu'on a imaginée, c'est que chacun puisse poser une question pour qu'il y ait plus de gens qui puissent poser des questions. Alors, je vais commencer par vous présenter Birgit Ellinghaus, à qui je vais céder la parole. Je dois dire que, Birgit, que vous occupez une place très atypique dans le monde des musiques du monde. Vous avez fondé en 1989 la société Alba Kultur à Cologne. Alba Kultur, c'est la principale société de production liée aux musiques du monde et aux questions de migration en Allemagne. À ce titre, Birgit, vous exercez des fonctions de conseil auprès du ministère de la Culture de la région Nordrhein-Westfalen. C'est Rhénanie-Westphalie. Et auprès du Goethe-Institut notamment aussi. Mais bon. Depuis l'an 2000, Alba Kultur est à la tête d'un réseau qui s'appelle Klangkosmos NRW. Un réseau d'opérateurs culturels qui œuvre dans les domaines des musiques du monde, dans la Ruhr, et qui a organisé une quinzaine d'années à peu près 2000 concerts, qui mettent en scène des artistes d'une centaine de pays, j'ai regardé un peu les statistiques, d'une centaine de pays différents. Vous avez créé aussi un prix de la World Music, de musique du monde en Allemagne, afin de valoriser les musiques produites par les immigrés installés dans le pays, et peut-être montrer que l'Allemagne est malgré tout, malgré les déclarations officielles, un pays multiculturel. La liste de vos activités serait très longue, je ne vais pas citer toutes, je me contente de signaler que depuis 2009, vous êtes membre du Comité national de la culture de l'UNESCO, de la section allemande de l'UNESCO, et que vous êtes aujourd'hui rapporteur pour le Haut Conseil de la diversité culturelle de la section Allemagne de l'UNESCO. Vous êtes également directrice du programme Unterwegs de la Philharmonie de Berlin, poste que vous allez abandonner pour vous consacrer à un autre programme similaire à l'Opéra de Francfort d'une part et à la Nouvelle Philharmonie de Hambourg, ce chef-d'œuvre de Herzog et de Meuron là, qui promet d'ouvrir en janvier 2017. Voilà. Alors, je peux peut-être signaler encore que vous êtes productrice au Westdeutscher Rundfunk, la radiodiffusion de l'Allemagne de l'Ouest. Puis rappeler peut-être à l'assistance que vous êtes déjà venu à Bayonne et que voilà, ceux qui pensent l'avoir vu déjà quelque part, voilà, c'était bien ça, c'était il y a 2 ans pour ceux qui ont suivi un petit peu les élections municipales sur Bayonne. Peut-être vous vous souvenez d'un débat sur les questions culturelles auxquelles Birgit avait participé voilà, à ce moment-là. Je suis vraiment très très touché qu'au milieu de toutes ces activités, vous ayez trouvé le temps de venir jusqu'à Bayonne. Merci beaucoup pour ce témoignage d'amitié et puis je vous laisse de la parole.
Merci beaucoup Eugénie pour ces mots vraiment gentils. Merci à vous tous d'accepter de venir ici et de me donner la parole, de vous parler. Je m'excuse, mon français n'est pas si bien, mais j'espère que vous pouvez suivre un peu les mots. Moi, comme Denis a déjà dit, moi je porte plusieurs casquettes et dans toutes ces casquettes-là, aujourd'hui je veux vous parler principalement en fonction de mes activités de l'UNESCO allemande, parce que je pense que c'est quand même une structure qui nous offre beaucoup de possibilités si on comprend bien que ce n'est pas une grande institution, un tigre en papier, mais c'est vraiment une structure qui a travaillé sur des règles de traitement de nos cultures à nous tous. Qui peut ouvrir beaucoup de portes pour tout le monde. Aujourd'hui, en 2016, nous avons principalement 2 outils juridiques internationaux importants en culture. Ce sont les conventions de l'UNESCO de 2003, donc il y a déjà parlé, c'est la Convention sur le patrimoine immatériel, et la Convention 2005 sur la diversité des expressions culturelles. Donc ça, ce sont les 2 grandes conventions qui règlent beaucoup des lois culturelles partout au monde. Les 2 conventions sont complémentaires. Et pourquoi ils sont complémentaires, je voudrais vous expliquer un peu par suivre un peu comment on est arrivé d'écrire et ratifier ces conventions. Il me semble important de regarder vraiment en détail qu'est-ce que les 2 conventions représentent, disent et comment on puisse appliquer ces droits culturels dans notre vie quotidienne. Donc ce n'est pas un exercice des politiciens qui ont décidé, maintenant on a des nouvelles lois, non, ça nous touche tous. La convention sur le patrimoine culturel est valable pour tout le monde, partout au monde, parce qu'on porte toujours partout au monde des traditions. Et cette convention n'est pas atterrie du ciel en 2003. Il y avait des programmes qui existaient déjà avant. Quand on a commencé à travailler sur une façon de regarder dans les traditions immatérielles. Il y avait un programme de l'UNESCO qui s'appelait les chefs-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité. Ça, ça, c'était pas une convention, c'était juste un programme, si vous voulez, un premier essai de commencer à décrire tout ce qui est tradition au monde. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé un peu la convention sur le patrimoine mondial, donc la convention qui s'occupe des monuments. Et quand on voit des monuments, c'est facile, on voit des pierres et on peut aller dans une ville et on peut dire, bon, ça c'est un super monument, on le met sur la liste et ça reste pour 100 ans parce que le monument ne bouge pas, sauf qu'on voit la situation par exemple en Syrie où c'est détruit par la guerre. Mais c'est facile de mettre des monuments sur une liste. Alors, ce qu'on a fait, on a appliqué cette façon de traiter les traditions orales un peu comme les monuments. Il y avait une commission qui a dit oui, on va choisir des chefs-d'œuvre de l'Asie, du Pacifique, de l'Europe, de Latine-Amérique, et on le met sur une liste ferme. Ça, c'était le début. Et déjà, en travaillant sur ces listes-là, on a vu que ça ne colle pas vraiment avec les traditions orales. Et il y avait un autre programme d'essai parallèle qui s'appelait « Trésors humains vivants ». Donc, on a identifié un peu partout dans les continents des individus, des personnalités qui étaient des gardiens de savoir des traditions orales. Donc, parce qu'on dit, oui, sans les êtres humains, ça ne fonctionne pas avec les cultures. Donc, ça, c'était un peu la situation qu'on a eu cette grande liste avec les chefs-d'œuvre de patrimoine oral et immatériel et les trésors humaines, vivantes, qu'on a mis ensemble dans la Convention sur le patrimoine culturel immatériel. Donc ça, il faut toujours mémoriser que c'était un peu les débuts. On a continué avec cette convention après, entre 2003 jusqu'à 2005, de classifier, de chercher dans chaque pays un peu des commissions, des expressions qui pouvaient rentrer dans les listes. On a développé trois types de listes. C'est une liste des expressions de patrimoine représentatif. On a développé une liste des expressions qu'il faut protéger et sauvegarder, et une liste avec des exemples, un registre avec des bons exemples. Ça, ce sont les trois listes. Et les listes représentent les traditions d'expression orale, incluant la langue, les arts de spectacle, les pratiques sociales, rituelles et les festivals, et aussi les pratiques de la nature et l'univers, et l'artisanat. Donc ça, c'est un complexe énorme. En 2005, il se passe quelque chose de très important. Jusqu'en 2005, il y avait surtout dans les pays qui ont ratifié cette convention sur le patrimoine immatériel.
De 2003
De 2003, il y avait des commissions dans les pays qui ont rempli les listes avec des différentes expressions. En 2005, il y a la ratification de la Convention sur la diversité culturelle. Et ça a changé tout. Parce que diversité culturelle est une convention sur qui protège. On dit c'est le Magna Charte pour la création contemporaine mondiale. Et cette convention a le statut des droits de l'homme. Les autres conventions, le 2003, n'a pas le statut de droit de l'homme. C'est une convention, on dit « nice to have hein, ». C'est un peu, on se réjouit de l'avoir, mais on ne peut pas réclamer quelque chose par cette convention. Par contre, le 2005 sur la diversité culturelle, ça c'est vraiment les droits qui nous permet de réclamer envers nos administrateurs locaux, le gouvernement régional, les départements, l'international, national. Donc sur tous les plans, ce sont les droits de l'homme qui ont des effets dans le juridique de chaque pays qui a signé. Ces droits règlent les mécanismes culturels et politiques qui sont définis dans les principes suivants, et je veux vous bien le dire point par point. C'est l'autodétermination culturelle illimitée sur la base des droits de l'homme, double nature des marchandises et des services culturels en tant que produits, et de transmettre les identités, les valeurs identitaires. Donc ça c'est très important quand on vient maintenant, on dit toute la culture devient le marché, ça devient toute l'industrie créative. Donc il faut toujours savoir que c'est la reconnaissance de double nature, ça veut dire qu'il y a toujours l'identité liée. Et même si c'est un produit sur le marché. Il y a aussi le droit à la politique culturelle que nous, on a tous, la participation de la société civile qui est réglée dans cette convention, la coopération internationale avec la mobilité d'artistes et aussi le traitement préférentiel du pays du Sud, l'intégration de la culture dans le développement durable et bien sûr aussi l'échange des informations entre nous tous sur la culture, donc des bonnes pratiques qu'on puisse comprendre des autres qui sont réglées dans cette convention. Je vais raccourcir ça un tout petit peu juste pour qu'on ne se perde pas. Je pense que cette convention sur la diversité culturelle est une obligation de revoir la convention sur le patrimoine immatériel parce qu'il nous ouvre beaucoup de portes pour rentrer en débat avec la politique, avec la société civile, avec les associations sur le choix, qu'est-ce qu'il y a vraiment le patrimoine immatériel à nous, comment on le traite, comment on le prépare pour le dialogue international et l'obligation également envers le monde entier de vous exprimer sur votre culture pour que les autres prennent connaissance de votre culture. Je m'arrête à ce point-là. Peut-être je pense plutôt plus tard on peut voir encore des exemples plus concrets.
Peut-être Birgit, on peut préciser qu'il y a une convention, celle de 2003 de l'UNESCO, donc qui est la convention qui porte sur le patrimoine culturel immatériel, qui est la star des conventions de l'UNESCO, qui nous encombre tous. Parce que il faut faire des listes d'inventaires, on en reparlera peut-être tout à l'heure avec Anne-Christine Taylor, mais voilà, qui est une convention qui bloque d'une certaine manière les traditions, on va dire ça. Et puis, il y a la convention de 2005 qui est un outil. Alors, c'est exactement le débat d'aujourd'hui, c'est-à-dire c'est un outil ouvert à la créativité et qui dégage les biens culturels, des biens marchands, des biens commerciaux. Et ce qui me paraît intéressant, peut-être que vous pouvez préciser cette chose-là, c'est comment cette convention de 2005 s'applique et a des contraintes sur des institutions mainstream, sur des institutions dans lesquelles vous avez travaillé vous-même, et permet, grâce à cette convention, finalement, d'introduire dans ces institutions-là des musiques minorisées.
Alors, la convention sur la diversité culturelle nous permet de réclamer que même les expressions culturelles de minorité soient représentées dans les institutions. Moi-même, je rentre dans les débats avec les grandes salles de concert, avec des festivals, pour leur dire vous ne pouvez pas ignorer telle expression culturelle parce que ça c'est quelque chose qui, par exemple, je le fais très pratique. Quand on voit en Suisse, il y a beaucoup de petits ballets. Et dans chaque ballet, il y a du yodel, du yodel.
C'est la laïtou.
Oui.
C'est ça, le yodel. Hein?
Voilà.
Nous aussi, on en a ici, mais...
Et chaque ballet a son yodel à part.
Ouais.
Et on peut dire, qu'est-ce que ça nous regarde, vraiment? Mais par la reconnaissance du yodel en Suisse comme patrimoine immatériel, ça a attiré beaucoup d'artistes pour travailler dans une façon... contemporain sur le yodeling. Ça a animé d'un côté toutes ces associations-là parce qu'ils ont pris au sérieux, et en même temps ça a intéressé les grands festivals d'inviter ce type d'expression traditionnelle dans leur programmation. Et ça c'est toujours une réciprocité qui fonctionne bien et qui font une animation l'un à l'autre qui pousse plus loin. Donc la tradition ne reste pas conservée sur une liste ou dans un musée, mais se développe très vivant.
Donc vous avez des concerts de yodel à la Philharmonie de Berlin?
Bien sûr, bien sûr. Et c'est un très grand succès parce que même en Allemagne, on n'a pas regardé très proche, mais on a eu 1000 personnes dans la salle de la Philharmonie de Berlin. Il y avait le yodeling traditionnel d'une région spéciale, et en même temps des artistes contemporains qui ont pris cette technique pour aller très loin. Donc ça allait vraiment vers l'avant-garde, et tout ensemble ils étaient sur le plateau et c'était formidable. Et ça a fait rendre curieux d'autres salles de concert de se lancer un peu dans toutes ces musiques alpines au sud d'Allemagne, en Autriche, en Suisse.
Merci beaucoup Birgit pour cet éclairage. Je suggère qu'on garde nos questions donc pour après, qu'on les regroupe en fin des interventions, et je propose tout de suite de me donner la parole à moi-même pour essayer d'incarner Gérard Lancude. Je suis très ennuyé parce que bon, nous avons tous dans nos environnements professionnels des personnes qu'on place un peu plus haut que les autres. Et pour moi, Gérard Lancude, enfin, que Anne-Christine connaît bien aussi, voilà, il fait partie de ces quelques penseurs voilà, qui pensent. dont la pensée est vraiment dense et nous apporte beaucoup. Voilà, je vais vous laisser en juger par vous-même. Donc Gérard Lancude a été directeur de recherche au laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France. Il a été aussi directeur adjoint scientifique à l'Institut national des sciences humaines et sociales au CNRS. Il est l'auteur de trois ouvrages importants parus ces dernières années. L'un, c'est Chabir qui me l'a rappelé, s'appelle En Corse, une société en mosaïque, qui est paru en 2012. Le second, qui est vraiment un livre important, s'appelle L'universalisme ou le pari de la raison, qui est paru chez Gallimard en 2013. Là, pour lui, c'est une manière de relativiser le relativisme culturel, et en disant que peut-être si on relativise les cultures, est-ce qu'on peut relativiser la vérité et la raison ? Là, ça donne à penser. Et puis le troisième, c'est un ouvrage qu'il a coécrit avec Jean-Marie Humbert, le linguiste, et qui est paru chez Fayard en 2014, qui s'intitule « Comment le langage est venu à l'homme ». Voilà, donc c'est un peu sur une archéologie du langage conduite à deux voies par un linguiste et un anthropologue. Donc son texte, que je vais m'efforcer de lire, que je ne pourrai malheureusement pas éclairer, mais qu'on pourra commenter si vous le souhaitez, porte sur l'idée de tradition et de savoir quelle distance nous avons nous-mêmes avec la tradition. Voilà, donc je lis. Serait-on prisonnier de la tradition dont on se réclame ? L'idée d'un enfermement dans la tradition paraît contradictoire avec celle de tradition revendiquée, sauf à parler d'une captivité volontaire. Quiconque se réclame d'une tradition s'en ferait alors de plein gré l'otage. Le détenu disposerait des clés de sa cellule. L'assimilation d'une tradition à une prison dont on ne saurait sortir, quand bien même le voudrait-on, est inséparable d'une conception de la tradition qui a longtemps prévalu. La tradition s'imposait. En d'autres termes, à la fois processus et chose, la tradition imposait tant sa transmission que le contenu de la transmission. L'action qui fait que l'on hérite et les biens dont on hérite, matériel ou immatériel. La tradition, dit l'encyclopédie en 1775, c'est l'action de remettre quelque chose entre les mains d'une autre personne. Une telle notion requiert l'idée d'une autorité du passé et des hommes d'autrefois, les ancêtres. Le passé est un réservoir d'exemples à suivre. Les ancêtres donne la leçon. C'est par exemple le cas de ce que Marcel Gauchet nomme le temps des religions premières, marqué par la prévalence absolue d'un passé fondateur, d'une tradition souveraine qui préexiste aux préférences personnelles et s'impose irrésistiblement à elles comme loi générale ou règle commune depuis toujours, valable pour tous. On doutera du réalisme de ce tableau, mais qu'importe. Dans l'après-coup de la Révolution française, Tocqueville dressera le constat de décès de l'autorité confiée au passé. Quand le passé n'éclaire plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres. Cette image de tradition souveraine qui a souvent prédominé en anthropologie, notamment culturelle, est construite en creux sur bon nombre d'oppositions. La tradition s'oppose notamment à l'idée d'adhésion volontaire réfléchie. La tradition opérerait d'autant mieux, voire à cette seule condition, qu'elle ne serait pas consciemment reçue. Il serait en somme de la nature de la tradition de faire oublier tant son existence que son autorité. À l'idée de changement, une communauté apte à se représenter ce qu'est la tradition à laquelle elle ferait allégeance, et a fortiori de s'en réclamer, se libérerait des chaînes de cette tradition. Elle changerait. La transformation la plus radicale de la tradition, écrit le philosophe Eric Weil, consiste à passer de l'obéissance inconsciente à la justification consciente. Dès le moment où une communauté esquisse à son propre usage le portrait de sa tradition et choisit en quelque sorte de s'y montrer fidèle, de la reproduire, elle n'est plus traditionnelle. Elle est traditionnaliste, ce qui n'est pas la même chose. Cette notion de tradition, avec toutes les oppositions qu'elle implique, a été largement rejetée et remplacée. Livrons-en une illustration parmi d'autres. Il s'agit du poids qu'a continué d'exercer pendant longtemps l'antiquité gréco-romaine sur les idées et les valeurs de l'Europe moderne, et dont les traditionalistes d'aujourd'hui aspirent à freiner le déclin à travers la défense du latin à l'école. Excuse-moi Marie, je ne savais vraiment pas. Bon. Rémi Brague rappelle à propos de cette influence que les Européens ne sont en aucune façon les héritiers de l'Antiquité, pour tout de suite ajouter qu'ils ne le sont pas si l'on estime qu'un héritier, c'est un individu qui, n'ayant pris que la peine de naître, reçoit pour cette seule raison les biens que ses parents ont accumulés. En revanche, écrit-il, héritier de l'Antiquité, les Européens le sont bien dès lors que l'on conçoit le fait d'hériter comme étant le résultat d'une activité d'appropriation. Hériter d'une tradition, sans proclamer le dépositaire, ce serait non pas se l'avoir mise entre ses mains, mais bel et bien mettre la main sur elle. Mais alors, si se réclamer d'une tradition, c'est ni plus ni moins s'employer à se l'approprier, il faut en conclure que la tradition est une filiation inversée, selon la formule de Jean Pouillon. Ce sont les héritiers qui choisissent ceux qui les ont institués légataires, qui se posent en descendants de ceux dont ils ont fait leurs ancêtres. La tradition circule en sens inverse, en sens inverse de l'hérédité. Loin que les pères engendrent les fils enfantent les pères. C'est d'ailleurs pourquoi ils peuvent s'en découvrir plusieurs. Bref, en matière de tradition, ce n'est pas le passé qui accouche du présent, c'est le présent qui met au monde et qui met en chantier son passé. Au demeurant, on ne s'approprie un héritage en se déclarant dépositaire d'une tradition que sous bénéfice d'inventaire, ne serait-ce que pour éviter d'avoir à acquitter des dettes susceptibles d'accompagner l'héritage. Et de cet inventaire, les critères sont bien sûr ceux de l'héritier. Donc, élaborés au présent, pas au passé. René Descartes n'a pas eu son mot à dire, et pour cause, lorsque le linguiste Noam Chomsky a intitulé « cartésienne » sa conception de la linguistique. Pourtant, si c'est au présent que prend forme et signification la tradition dont on choisit de se réclamer, il ne faudrait pas en déduire qu'une tradition est une pure et simple invention du présent. Du reste, on n'invente pas à partir de rien. Tout artiste le sait au fond de son cœur. Il faut bien que du passé se trouve quelque chose lui appartenant pour qu'il y ait quelque sens à proclamer, y avoir trouvé profit. Et de ce passé, configuré au présent, il est exclu de faire n'importe quoi, au moins durablement. Sitôt Ceausescu disparu, les Roumains cessèrent d'être traditionnellement des Daces. L'héritage approprié doit faire signe par quelques traits. Autrement dit, on n'a pas une tradition sur commande et tout à la carte. La tradition, un moteur de création, je ne saurais le dire, ce qui me paraît évident, c'est que pour interpréter une tradition, c'est-à-dire la faire parler, et c'est nécessairement au présent que cela se fait, et c'est nécessairement dans notre langage d'aujourd'hui qu'elle s'exprime, il faut, disait Nietzsche, lui prêter notre âme. Et ce prêt d'une âme me semble bien proche d'une activité de création. Voilà, j'ai eu du mal à ne pas paraphraser à mesure, mais bon, voilà. Je crois qu'il nous fait regretter d'autant de son absence, mais bon, voilà. Je crois que ce sont des questions qui vont venir quand même, de toute façon, je pense, dans la discussion et qui vont être très, très traitées différemment par les uns et par les autres. Et notamment maintenant par Panchika Teleria, que nous connaissons tous comme imprégné dès son plus jeune âge, dit-elle sur son site, du monde de la tradition, de la danse traditionnelle basque, et engagé dans le registre de la danse contemporaine. Aujourd'hui, elle a fondé cette compagnie Eli Lale en 2001. Vous puisez, Panchika Teleria, votre moteur de création chorégraphique dans votre enfance, dans ces souvenirs que vous évoquez sur le site de l'Institut culturel basque, EKE.EU. Dans vos souvenirs d'enfance, vous voyez votre mère et vos tantes qui dansent le fandango, et vous restez là, pétri du désir d'entrer dans la ronde, et puis vous essayez. Et puis, Begiraleak, Saint-Jean-de-Luz, vous apprenez les codes qui sont déjà inscrits en vous. Et puis le Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Et puis, surmenage, la blessure dont vous ne voulez pas parler, on n'en parlera pas. Et puis, c'est un trait de votre caractère, je pense, la décision de ne pas laisser tomber pour autant, et donc, vous serez chorégraphe. Et c'est ainsi qu'on vous retrouve quelques années plus tard, à la tête d'une compagnie bien installée à Asquin,
à Saint-Pé,
en résidence permanente à Saint-Pé. Ça bouge, la tradition. Et invité des plus belles salles du monde, le musée basque, il y a 2 ans, pour la création de Serobat.Serobat, ce très beau festival qui s'appelle Haïsé Begui. Mourex aujourd'hui, au Ballet de Marseille aussi, au Festival d'Avignon. Et on vous entend ne cesser de rappeler à qui vous écoute, et en basque de préférence, qu'au commencement il y a le corps, puis viennent l'imitation prestigieuse, puis vient la culture, la technique, le haut niveau d'exigence, le très haut niveau d'exigence, et enfin le corps, parce qu'on l'a oublié en cours de route. Je vous cède la parole, Panchika, je vous remercie donc de vous exprimer en basque.
Saiatu naiz, esplikatzen, zeren bila duan naizen azken bolada honetan nire kompainiarekin, egerari kompainiarekin, ba, dantzari ezberdinekin, arantzadan, joxeka zupon, oian indat, hor diren guziekin, anzten ditu batzu. Beti nanik, biretzat, dantzak, dantza euskarri bat izan da, lehen gaia bat, eta debate publikoko lekoa, nun nahasten den intimotasuna. Eta hori, nahiz eta dantzaria izan, uste dut, denu beti koreografoaren asmoa nuela, eta zauritu baina izan behiz koreografiara bueltatzeko zen. Eta asieratik, dantzatzen nuelarik tipitan, bai ama eta izibekin dantzatzen nuen, baina baita ere Atahualpa Yupanquiren tekstuen gainean, bai, biziki importantea zelako tipitan dianeko nire gorputzarekin adieraztea Atahualpak kontatzen zuena. Hori ez da PowerPointean, bateratzen zitura. Bai, gorputza aipatzen dut, eta pixka bat nahi nuen, bo, analistik pasa, uste dut, denok behar dugulako tresna bat zukukan, eta hor nahi zenez, koreografo gisa bat pixka bat, gorputzaz hitz egin nahi nizuen, eta gure kompainiaren lanean, Feldenkrais, Motion Feldenkrais, Ogoigaren mendean, Ligaridratzirun eta Ogoita Marian sortu zuen Motion Feldenkraisek metodo bat, eta niretzat izan da, ba, berriz nire gorputzarekin lotzeko ahalmen bat, ez tresna bat. Eta Motion Feldenkrais iskaldara, fisikan aritua, kirolariak bere ere zauritu zen, eta bere burua galdezkatu edo bere gorputza galdezkatzen hasi zen. Eta hor, metodo filosofia bat duen metodo bat martxan ezari du, eta praktikatzen dudana ez egunero barriuski, baina hainitzetan nire gorputzaren zat eta dantzarien gorputzaren zat. Eta hor, burmuina desprogramazio bat da metodo hau, eta nola erran berriz hiru esfera gurutzatzeko parada. Badakizue denok, bizia den gure euskarria da gorputza, denok gatoz gorputz batekin mundura, eta gorputz horrek ba, materia bat bezala landuko dugu, ez nunbait. Eta mugimendu mailan dugun lehen esfera da burasoekikoa, familiarekikoa, eta orduan ja burmuinak ireki edo itxiko ditu. Ez gure barnetik datozen olako bideak, ez? Eta hori ja gugira barnean, ez? Interioritate bat. Eta edo ideki, edo izten dugu burasoak aurrarekiko. Gero bada beste esfera bat, eta gizartearena ez. Eta gizarteak ze balore dituen, eta hor ere behar dinamika martxan ezartzen da, itxidura edo idekidura. Eta azkenean hirugarren bat, deituko duguna pixka bat mobilitatearena, hots gaur egun gure ordenagailuen aintzinean, ez gaude biziki mugikariak ero, Xabiar, dantzan aritzeko. Elizanburuk, emeretzigaren mendean uzten duelarik Pierre Chadamet, eta egiten du mutxikoi buruz olako pepitatxo bat, oletako festaz, ikeren biten duzu bizikide gara. Ba, ipatzen du jautzi sistema, mutxikoen sistema, baina ibiltariak ziren ba, erritarrena dena, hots, saratik oletara diteko, Pierre Chadamet eta Peio, ba, lagunetik igo jautzi ibiltzen zen gizarte batena. Eta gaur egun, gehiago egun genuke, 5 minututan autoz. Pardon, moa. Hori ere, ze mobilitatearekin gauden bakoitzak, horrek batu eraginak hori gorputzan, da izte egin behar eta dantza azkenean, dantza gorputza dator hiru esfera horietatik at, ez? Eguneroko tasunetatik at, eta hori gaitzik ere jauzi sistema, agian euskal egitea, eta hor, nahitarak endut euskaldunak, zenta espertuan entzen piskat euskaldunak, euskaldunak, ba, jauzi sistema hain gurea sentitzen dugun unbait, gure hiru esfera horietatik proximitate gune hori hurbil bat da. Eta oartu nahiz zerbaitetaz Joana Ala eta Xavier, Borremen Xavier, edo izan hori lagoi urte maritu bida eta hor izan zen errelazio bat edetza. Biziki sistema kompleksua da azkenean. Eta Euskal Herritarrok ez dakiguna da azken finean biziki sistema komplikatu bat sortu da edo garatu da hemen eta mantentu da. Eta horrek harritu nau benetan hurbildu dutalarik lan hori. Ikerketa lan hau hasi dugu Lagunarte konpainiarekin 2012an eta ideia zen beraz musika eta dantza sistema akulturaziotik pasatzen sistema hori zeharkatzea berriz eta zer gaitik ez hori zen nire ametsa mutxikoen gorpuzkera atxematen. Ba, ekografo bat entzat, gorpuzkera bat agerian ezartza eta partikatzea diendeekin, zinez apostu polita zen. Eta baita ere, taldean joan gira sistema horren ikertzera, zenta ohartu gira, gu boni, piskat lehenago sortu nahiz, irurgoi tamabian, baina justuki begin, sei urte nituelarik, beti du etzen oraindik hor. Eta nik kasi ditut mutxikoak, basen afartar, erara, begin. Bon. Gero, Parisera joan naiz, eta bueltatu naiz uradik, begira, berriz hasi bai naiz, begin, emezortzi urterekin, ja, beti du pasatu zen, eta gorpuz gara, era, taldatu azuen. Horrek ere, zerraitik egin azuen zera hori. Eta bon, gu, esan nahi dut, larrogoi garen inguruan ibilitako edo eraikitako dantzari eta musikariok, naiz eta dantzari hainit zauden eta musikari hainit zauden gar egun, imersioz hartu dugu sistema, baina azken finean giltzak egiazki ukangabe, nire ustez. Eta hor, abiatu dugularik ikerketa lan hori, zinez kalitatiboa zen finezia horren bila joan nahi gero. Eta ni gurek koreografikoki, koreografo bezala barkatu pertsonalki, oartu nintzen, Marseillean ibilina izelarik justuki Sardeniako dantzari batekin, oartu nintzen, hanfe, dantzari garaikik den formatuak ziren dantzari horiek, beti raten ziren, ez du lortzen nondik pasatzen zaren, zer nuen lortzen transmisioan belai pasatzean nik nuena gorputzean. Eta hor da, joan ahala ikastaroa, gurutzaketak eta oartu naiz agian, banuela nire baitan, bai dantza klasikoaren sistema ongi razionalizatua Konservatorio Nazionalean, gero dantzara garrera ikirekoa, ba, koreografo batzuekin landutakoa, baina azken finean beste parte bat ez nuena sekulan ba, analizatu eta sentitu eta ez zitzik ezak eta hori zinez penagarria txematenan. Eta gero, ba, kolektibo mailan, egirare mailan, sentitzen genuen ere, ba, gure ogoita bat garen mende untako dantzari eta musikalion presentzia, azkenean, etzela gure gorputzarik, jauzien sistema, etzela gure gorputzekin lotura. Odan lotura horren bila joan gira. Ez da ginen mutxikoak aipatu behar ditudan sistema zer atseman dugun, baina ez da gurea sistema. Amasei garen mendetik dator eta atxematen dira lehen aztarna guia bosteun eta largoi eta sortzian orako idazki batean dantza maisu bat egindako orkezografi deitutako liburuan eta ba, zabaldu zen eta anfe sistema hau da puntuazio duen sistema bat boro bilean edo zirkuloan ematen dena eta perkusio elementuarekin berezko lotura duena. Hemen Euskal Herrian, lehenbizi sistema hau oraindik bizirik dago Inglateran, Jugoslavian, Grezian, hor badago etnologi de la danse, konstruzion disiplinez, zera, ostende sortutako eta emandako liburu bat 2010ean eta hor ikusten da ba, sistema hau bizirik dagoela beste lekuetan eta gure eskualde zabalean, Pirineoetan, badago Nafarroan mutil dantzen sistema. Ez dena arras gure ipar eta behar noko sistema hori, baina, bo, bertsuak dira, eta bi aldetatik bizirik. Eta ikusten dugu azkenean, normala zela guk, ogoigaren mendearen bukaeran jaso dugu ondare hau, eta azken finean, jaso dugu biltzari gabe zergaitik, ogoigaren mendearen hasieran, ruralitatearen bukararen gatik, dantzariek sekatzen zutelako teknizitate gehiago, ez baitz egiten ere gehiago nora sartu teknizitate hori, zen da Pierre Chadame hortan ikusten duzu, aizturak eta ematen ditula, beraz, gatzen ari zena, eta zirkulu, dantza horiek, ez zirela gehiago prezentziatuak, azken finean, sistema hori, deusien sistema, emeretzigaren mendean, ogoigaren mendearen, emeretzigaren mendearen bukaeran, ogoigaren mendearen hasieran, ja, joiten da diagusten. Eta, ba, gu indizino gez bezala, indizinoak bai gira hemen, ogoita bat garen mendean, nola berriz lotu mutxikoen energiarekin. Nahi zuta, nik ez nuen nahi elizarekin lotu, ez nuen nahi militar iraganarekin lotu, beraz, behar zen joan muinaren txeka. Eta hor, joan gira pixka bat, muinaren txeka, simbolo ezberdin guztiak endu, jantzia, bai, bat dizuet politikarena, izan dadin nazionalismoa, izan dadin elizarena, eta sistema horbildu dugu beraz, dantzari eta musikarien analisietatik, izan dadin Feldenkrais talde batetik edo Laban bestaldetik, idatziak ziren iturriak ere hartu ditugu, joan gira zaharren bila, hori ere oso polita izan da, eta batez ere linguistak bezala ibili gira. Eta linguistek badute, moniko hori gaxi dut, badute sistema bat, hizkuntza baten aintzitan daudelarik, eta hor, nabari zen gorputz eta musikaren sistema baten aintzinan ginela, joan gira dena biltzen, eta hori deitzen alda etika, eta gero joan gira kentzen, atxemateko gramatika edo esan nahi dut muina benetan, eta hor, gelditu gira emikarikun. Eta dena test joxin dugu, baina ez dugu oso zaila izan. Eta hori ahrigarria da, nola, eskaldunak, hor, ez dakik nire gure aintzinekoak ze altxorak utzi zuzen, eta aski izan dugu Miguel Angel Sagasetaren liburua biltzea, Luzaideko dantzak deitzen den liburua, eta hor, 1987an eginek argitaratutako liburu batean, sistema dago, mezinez, euskara polit batean gainera, idatzia, utzia eta ondoko belaunaldientzat, guretzat, sekulako altxoa. Eta hor zer atxeman dugu, aipatu dizuet janeko, puntuazio du nibiltzeko putz bat, eta deklin nabideak dituenak. Hor txer izkuntza honek baditu aurrizkiak, baditu artezkiak, baditu badu sustrai bat, hori gorputzaren alternantziari lotuta, eta badu pikatu formatua dena, esango dut, atzizki bat organikoa. Berez, puntuazio hori gabe, pikatu hori gabe, ezin da sistema hori izan. Hori lotua da perkusio elementuarekin, baroko erara tempo justuan errespetatzen duena, eta musikak edo perkusioak bueltatzen dio bizkarrezurra dantzarien. Zara esan behar ezan egin hau. Ba, oso berezia da, zenta lotura beraz ezka dantzatu bat sortzen du, eta hor hartzen dira lotura hau azken finean kompositore handienek hartu dutela, Stravinsky batek erabili duela adibidez. Eta hori, gero improvisaziotik kompoziziora biziki eragin korra izan da gure lanean. Horren, artistaren tokia zoin da, nireko idantzari buruz bat. Gurean, ari nahiz mozten, zena dut erandeta, tradizioa zer gaitik. Ba, esan izan nik pertsonalki zergaitik, baina baita ere talde mailan nahi genuelako grup eman komun bat atseman. Bai, ja, identitate berezi bat eta gure xiko emanaldia hor otsailan irigunearen sasoiaren baitan sortu duguna. Ba, kanpora eramaten dugularik, diendeak esaten digun, wow, argi-argia da. Preokupazio gara ekide enetan zaudete, edozein koreografo gaur egun ibiltze hori galdezkatzen du, eta zuek ekartzen duzue ibiltze hori, baina inor ez bezala. Eta orduan hori, ba, atxigina da entzutea, eta gainera atxigina da ere nunbait, ordan oso polita da lanpuren tepsa eta biziki maitatu dut semeek eta alabek aitak edo amak sortzen ditugula, egia da. Eta niri beti importatu zait askatasuna atxematea, agian niri gurasoekiko, ez dakit, baina baita ere fluidoak askatzea. Eta zinez, talde mailan eta pertsonalki, behiz lotzean nire hasierako tipietako lehen esferarekin, ba zinez, askatze horrek biziki unkitu nau, eta azkenean gure elidaleko bulegoari amabos urte ondoren txandiot, atseman dut nire die eskuara, ez da bezkin.
Merci beaucoup, Matika, pour ce témoignage analyse et pour les perspectives que vous dégagez. Je pense qu'il y aura des débats qui vont s'engager tout à l'heure sur ce thème. Je voudrais donner la parole maintenant à Anne-Christine Taylor, que je remercie vraiment d'avoir réussi à nager ce matin jusqu'à l'aéroport, parce que le trajet Paris-Paris a posé beaucoup plus de problèmes que le trajet Paris-Biarritz. Bon, voilà, merci beaucoup d'être venu dans ces circonstances un peu difficiles. Vous êtes ethnologue, spécialiste des cultures indigènes de l'Amazonie. Je vous connais spécialement comme spécialiste des Jivaro. Vous avez beaucoup travaillé sur la perception du temps et de l'histoire dans les sociétés indiennes, et notamment sur des échanges entre les peuples de l'Amazonie et les peuples des montagnes dans les confins amazoniens du Pérou. Vous définissez votre posture de recherche comme une phénoménologie structurale, ce qui vous place dans le sillage de Claude Lévi-Strauss, avec qui vous avez fait votre thèse de doctorat, mais avec un léger pas de côté. Puisque votre structuralisme est amendé de pragmatique, ce qui vous rapproche d'une tradition de pensée, mais peut-être j'ai tort, que Marshall Salins a incarné d'un côté de l'océan Atlantique et que vous incarnez, vous, sur ce continent européen où vous êtes une des figures majeures de cette école d'anthropologie que l'on dit franco-brésilienne. Voilà, vous êtes directrice de recherche au CNRS, vous avez écrit une soixantaine d'articles, et je citerai deux ouvrages parmi les récents, Psyché, visage et masque, donc avec Jacques André et Sylvie Dreyfus ACO aux éditions du PUF, et puis La préhistoire des autres, qui est un livre magnifique avec Nathan Schlanger aux éditions de la Découverte en 2013. Mais surtout, vous avez été la première directrice du département de la recherche et de l'enseignement au musée du Quai Branly. À sa création en 2006, donc vous avez anticipé le moment d'ouverture au public, évidemment, pour vous ça s'est passé en 2005, jusqu'en 2013 où vous avez passé le relais à Frédéric Keck. À ce titre, vous avez été confronté en permanence à ces questions qui nous occupent ici au Pays Basque et qui tiennent à cette forme d'agacement que l'on peut éprouver parfois face à cette injonction identitaire nietzschéenne que l'on adresse parfois aux cultures minoritaires, deviens qui tu es. C'est agaçant quand même. Je vous laisse la parole.
Merci beaucoup, Aurélie. Merci à l'Institut culturel basque pour l'invitation. Merci à vous pour votre présence. Effectivement, je voudrais, puisque je suis ethnologue et que c'est en ethnologue que je vais parler, en ethnologue en plus très à l'ouest, si j'ose dire, par rapport au Pays Basque, puisque, comme je l'ai rappelé, mon expérience est plutôt sud-américaine. Et je voudrais effectivement revenir un peu sur une question qui est relativement peu saillante dans le papier remarquable de Gérard Lampuy, qui est celui du lien entre ces affaires de tradition, de culture, de patrimoine, et celui de et la notion d'identité. Donc la question de l'assignation identitaire. Alors, une première chose à dire, c'est qu'il y a évidemment dans toutes les sociétés des moments, des contextes, souvent d'ailleurs des contextes qu'on appelle rituels, dans lesquels des individus peuvent s'éprouver ou sont désignés comme membres d'un collectif donné, et donc du coup comme porteurs d'une destinée particulière, d'une nature ou d'une autre, ou d'ailleurs à l'inverse, on l'oubliait un peu trop souvent, comme n'étant pas ou plus ce qu'ils croyaient être. Ça, c'est une situation absolument typique des rituels, par exemple, d'initiation. Alors, on notera que ces opérations d'assignation, d'identification ou de désidentification se font toujours dans un mouvement d'opposition implicite à des formes concurrentes ou à d'autres formes d'identification. Par exemple, c'est nous, les hommes, qui ne sont pas vous, les femmes, vice-versa. Nous, les humains, versus vous, les ennemis. Nous, vous, les membres d'une classe d'âge donnée, versus vous, nous, les aînés, etc. Cela dit, d'une part, l'injonction identitaire exclusive, suscitée et mise en avant dans ces circonstances, est éphémère. Et par la suite, elle devient dans la vie courante, ou elle vient dans la vie courante, cohabiter avec ou s'insérer dans d'autres formes d'identification, quitte d'ailleurs à revenir sur le devant de la scène dans d'autres occasions, éventuellement d'ailleurs pour être tout à fait transformée ou même contredite. Deuxième chose, ces opérations d'assignation identitaire prennent très rarement dans les sociétés dites traditionnelles, je déteste cette terminologie, mais enfin bon, allons vite, elles prennent très rarement donc la forme d'une injonction à devenir ce que tu es. Elles prennent plutôt la forme de tu es ceci et non pas cela. Et généralement, le sens même, le contenu de ce tu es ceci ou cela, demeure très indéfini, voire parfaitement énigmatique pour les acteurs concernés. La formulation « deviens ce que tu es » renvoie en réalité à une idéologie moderne qui présuppose comme allant de soi la notion d'individu, premièrement, doté donc d'une essence singulière qu'il s'agirait de laisser émerger, de faire émerger, présuppose comme avant de soi l'idée de nature humaine et de société, tout un ensemble de conventions qui sont très très loin d'être universelles. Et enfin, dernière chose très importante, l'injonction identitaire dans ces sociétés dont je parle se réfère pas du tout à ces catégories qu'on désigne aujourd'hui par les termes d'ethnie ou de nation. Je ne fais pas de différence à vrai dire, entre ethnie et nation. La seule différence entre une ethnie et une nation, c'est que la nation, c'est une ethnie avec un État et une armée, soit dit en passant. Maintenant, la patrimonialisation d'une tradition, ou de la tradition, si on veut, elle intervient lorsqu'un groupe est sommé ou se sent obligé de démontrer aux yeux d'autres collectifs, en général la société dominante, qu'il possède question d'une essence singulière et donc d'une histoire particulière dans laquelle s'enracinerait une identité singulière, collective et individuelle, qui tend, au moins dans certains contextes, à devenir de plus en plus exclusive d'autres modes d'appartenance. Ce processus-là, il suppose d'abord d'apprendre qu'on possède une culture, chose que beaucoup de sociétés, ou de collectifs, si vous voulez, ignoraient jusqu'à présent. Il y en a plus beaucoup qui l'ignorent, mais c'était le cas jusqu'à récemment. Et donc qu'elle possède une culture par opposition à ce qui est souvent objectivé dans les souvent objectivé sous la forme de la coutume, ce qu'on désigne très souvent en Amérique latine par le terme costumbre. Et ce qui est très intéressant, c'est que la tradition, la vraie tradition, si j'ose dire, est désignée dans beaucoup de pays d'Amérique latine, non pas par le terme espagnol la costumbre, alors que ces gens sont parfaitement bilingues et qui maîtrisent parfaitement l'espagnol, mais par le terme el costumbre. Et ce petit changement de genre fait toute la différence. Il y a un équivalent très courant dans les pays d'Océanie anglophone, c'est celui du top piscine, du pidgin, custom, traduction de custom, de coutume, si vous voulez. Ces termes-là renvoient généralement à une représentation locale, indigène, évidemment aussi produite généralement par la situation coloniale, donc une représentation indigène de la tradition, et ici, quand je parle de tradition, je veux dire ce qu'il faut être ou faire pour perpétuer et transmettre un ordre du monde auquel on tient, mais qui n'implique pas sa visibilité et son explicitation pour des regards extérieurs. Bien au contraire, la référence à la coutume, à la costumbre ou à el costumbre, est à la fois une manière de rappeler aux membres d'un collectif ce qu'il convient de faire, et par son indéfinition délibérée, c'est aussi un masque qui préserve en fait l'intimité culturelle du regard extérieur. La culture, par contraste, que de plus en plus de groupes indigènes d'Amazonie, par exemple, est en train d'apprendre qu'elle possède, la culture, entre guillemets, appelons-la, par contraste, exige d'être visible et accessible en accord avec les valeurs de transparence démocratique et de partage fraternel qui norment les rapports entre collectifs, comme entre membres d'ailleurs d'un même collectif, de notre point de vue. Et du coup, elle est amenée à être synthétisée dans des performances, des productions ou des monuments ouverts aux yeux de tous. Et elle est de surcroît, cette culture, très normée par les attentes des multiples agents impliqués dans la patrimonialisation. Les agences internationales telles l'UNESCO, qui définissent évidemment les critères de ce qui fait culture. Les ONG, qui poussent les groupes minoritaires à développer des expressions culturelles à la fois identitaires et économiquement rentables. L'industrie touristique, les instances étatiques, soucieuses de canaliser dans les manifestations folkloriques, entre guillemets, les revendications politiques de leur minorité, etc. Évidemment, tout ne fait pas culture, ni des pratiques jugées incompatibles avec les politiques de santé ou d'ordre public, ni celles trop évidemment subversives des valeurs établies, ni celles qui pourrait choquer telle ou telle communauté. Par exemple, je travaille chez les Givaro, bien connus pour leur pratique de réduction des têtes réduites. Évidemment, aucune chance que la chasse aux têtes ne soit jamais patrimonialisée officiellement. Mais c'est évidemment pas le seul exemple. La vindetta, belle tradition. qui évidemment non plus ne sera jamais patrimonialisé. La tauromachie, à un moment donné, a été patrimonialisée, est en train d'être dépatrimonialisée, etc. Bref, la culture doit manifester la différence, certainement, mais une différence hygiénisée et reconnaissable comme culture, précisément. À cette condition, la culture peut devenir l'objet des opérations scalaires, de toutes les opérations de mesure et des opérations bureaucratiques qui vont, d'une part, transmuer la culture en patrimoine, d'autre part, vont en faire une valeur et, évidemment, une valeur économique. À cette condition, donc, la culture patrimonialisée peut devenir une rente et une rente non négligeable pour bien des groupes qui est souvent dépourvu d'autres sources d'existence. Mais elle devient évidemment aussi une ressource, puisqu'elle est le garant qu'on possède une identité ethnique qui, dans bien des pays, en particulier en Amérique latine, vous légitime en tant qu'acteur politique. Et c'est donc la condition pour pouvoir accéder à des sphères d'action politique, dont ils sont autrement exclus. Et c'est pourquoi les processus de patrimonialisation sont toujours extrêmement ambivalents. D'un côté, ils peuvent aboutir à une sorte de zombification ou de pétrification mortifère de toute ou partie d'un ensemble de pratiques de tradition. De l'autre, évidemment, ils permettent d'accéder à certaines formes d'action politique et puisque la culture constitue une valeur, à des ressources économiques. Et enfin, ils peuvent constituer malgré tout un rappel, une évocation de la tradition qui du coup peut éventuellement être reproduite sous des formes dissimulées, camouflées d'une certaine façon. Donc, par exemple, la folklorisation n'empêche pas la réappropriation productive de toutes sortes de pratiques et même des réappropriations tout à fait subversives. Les rituels de carnaval sont un très bon exemple de cette dialectique. Reste que la patrimonialisation tend effectivement à bloquer ou à figer le changement qui est le moteur de la tradition par définition, puisque elle bloque donc ce processus d'invention permanente qu'est la tradition, puisqu'elle doit dès lors être préservée. Une chose est patrimonialisée, ça veut dire qu'elle doit être préservée. Et donc, du coup, si elle est préservée, on ne peut pas trop la changer, sinon, etc. Dans les faits, pour conclure, dans la plupart des sociétés contemporaines, beaucoup de sociétés contemporaines en tout cas, ces trois manières, la manière, si j'ose dire, non réflexive, encore que, en réalité, ce qu'on appelle la tradition fait l'objet de certains niveaux de réflexivité, tout simplement parce que la réflexivité est inscrite dans l'usage de la langue partout. Elle existe sans qu'il y ait aucun terme qui correspond à notre terme de culture ou même de costume ou de tradition. Bref, ces trois manières de vivre, d'éprouver et de produire de la culture coexistent aujourd'hui, si bien que, par exemple, on peut trouver, par exemple, dans certains groupes d'Amazonie que je connais bien, la tradition au sens réflexive localement, El Costumbre, qui est déjà une tradition fortement métissée, mais qui en réalité est une production à laquelle on tient et qu'on fait beaucoup d'efforts pour transmettre, et enfin la Cultura, qui est une série généralement de performances qui sont des ressources économiques, des moyens d'action politique, mais qui sont très souvent perçus comme avec beaucoup de perplexité par les sociétés qui sont obligées de les produire.
Merci beaucoup. Pour la question. Merci. Je propose de passer la parole maintenant à Chabière, qui est Chabière Itzaina. qui est sociologue au CNRS. Vous travaillez au centre Émile Durkheim de Sciences Po à Bordeaux, spécialiste du lien entre religion et politique, mais aussi spécialiste des dynamiques territoriales d'économie sociale et solidaire et des mobilisations identitaires. Vous avez soutenu à l'automne dernier une habilitation à diriger les recherches qui portait pour titre « Les autres catholiques, catholicisme social, politique et territoire en Europe du Sud », un mémoire dans lequel vous vous intéressez à la dimension médiatrice qui caractérise, selon vous, un certain répertoire d'actions catholiques. C'est en Italie que vous avez mené cette recherche, qui a conduit à ce travail à l'Institut universitaire de Florence, grâce à une bourse Marie Curie for Career Development, je ne sais pas comment dire ça, dans les années 2012-2013. Parmi vos publications, la politique du lien, les nouvelles dynamiques territoriales de l'économie sociale et solidaire aux presses universitaires de Rennes en 2010, Politics of Religion in Western Europe, publié à Londres chez Routledge en 2013, et Varietals of Capitalism, publié en 2016 à Cornell University Press. Vous voyez bien que le changement de langue est en raison directe de l'accroissement de la notoriété. Donc, il y a aussi ce livre que nous connaissons tous ici, que vous avez publié aussi aux presses universitaires de Rennes, qui était le fruit de votre thèse de doctorat, qui portait sur les virtuoses de l'identité, religion et politique en Pays Basque. Et donc vous proposez ce soir, puisque je ne surprendrai plus personne en disant que vous êtes aussi danseur, vous proposez de vous interroger sur la transmission et la mutation des pratiques festives en Pays Basque. Et vous le faites en euskara et je vous remercie.
Aitor bezalan, ene partetik, ez nahi zela, baita zbada guztian, mahi inguruaren gaiarekin, fango inket nintzen, manifestatzearekin. Nik egia eran, sorkuntza eta tradizioaren arteko lotura ez dut arazo bat bezala ikusten, beraz, fini dut. Zerbait eraiteko kanale, bizpairu ideia nahi intuzke ezari, izaitekotz hori duraren funtzionamenduaz, hemengo ohidura dantzatuetarik abiatuz. Lehen da bizikera nezake ohidura aipu delarik eduki bat behinok gehiago transmisio modu bat dela izendatzen, tradizionalak dauzkagun unen beste mekanismoen eta eragileen bidez transmititua izanen eduki bat. Eta gaur egun oraindik gauza bitxi batzuen egiteko erabiltzen dugun justifikazioa da ohidura edo usaila itzori. Lagu bat du ezartzea hartzea zestitzeko, prozesune batean dantzan hartzea, edo iruz pala horren ez, xutik kantatzea, erdiaroko zaldun baten bizia. Elgarrekin izaiteko molde bat da, estetika bat, behar bada iardokitze zerbait ere. Horritura dantzatuak, ospakizun berezi batzuek eratxikiak dira. Besta horiek, sedimentazio historiko zuen ondorioak dira. Garai desberdinetako ordenu simboliko eta instituzionalen oroitzapena. Eta sasoineko ospakizun baten aipatzeko, Baxenabarret eta Lapurdi Barne kaldean zaindu ditugun bestaberrietan, frango ezaugarri desberdinak nahasten dira, sedimentazio hori ageri da. Eta bakotsak naski besta hortan nahi duena ikus dio. Edo frantses nazional katolizismo organiko baten oroitzapena, Eliza eta juntaturik, edo kontrareformako Elizaren ospea, edo alderantziz kontzilioko Eliza, tokiko kulturetan oinarritzen dena, edo primaderako besta bat, nun natura, iguzkia, loreak eta berdurak diren ospatzen, edo batzuk besta horren irakurketa foranista egin dezakete, ikusiz prozesioan dantzan nahi diren soldadoak irautza entzineko milizia provintziaren segira zuzenan direla. Besta hortan ikus ginezake ere, denbora batetako etxen arteko harremanen erregulazio tresna bat, edo gazteriak erakunde bezala, bere buruaren plazaratzeko erabiltzen duen estakuru batek. Horiek oro dira beste berriak, eta aize gehiago ere. Eretako berriketariak hause zion, 1905ean, eskualduna kasetan, entzinean dut, ez dira korrektu dut, herri hartako beste berrien aipatzearekin. Musikariak gila ibili zeiestenekin, auzapeza, agabita, zaharrak eta gaztea, arnoaren indarra, suisa, atxaldeko joka partidak, auzo herrietako ikuskiara, potret jarritzadea, batzuen eta bertzen girgileria, janedana, prosesionia, txuriak eta gorria, ginkoa, alega, jatik. Erizatiak nahi batzuen kopetak argotan jartzeko, dantza, odol sortazon behar, konduen ez eitea, emazte batzuen xapa, gabetzen eta posta. Iguzkin zeruetakoa eta seindua, pia, bisnitxo, arratxeko erretila, jandarmen eskasa, berak. Iduri duke, asko lasteretaz aitera, ez, besta berritaz. Gara jarta, herri horta besta berriek hartzen zuten erran nahi ez, besta oso bat. Orduan, alaina, simboloz hain betea den besta daten erran nahi guzien argitzea, zaila da, ikusiz, ospakizunaren gibelean dagotzin ordenu instituzional horiek ahunt kamietu direla. Eta ariketa bera egin ginezake, bertzein bat ospakizun. Eskolerian, unen bertze hori dura dantzatu behiratu ditugu formaren aldetik, baina erran nahiak beti araberituz. Eta uste dut, erran nahien anistasun hori esker dutela gaur arte irau, ospakizun horiek. Eta frangotan galbotik ikusita ez da ulertzen anistasun hori. Esplikazione bat nahi da inposatu. Gaur egur dena nahi dugu argitu eta erran nahi ilunekin baditugu nekeziak. Menan denen argitzeak misterioak den dezake, horako barne sekularizazio bat bezala. Batera erran nahi gordeak, eta horrek dio ere bere indarra emaiten errituarari. Luhuson eta makean, xaharrekin lehenauko toberetaz mintzo nintzelaik, dantzaren eta hauziaren erran nahia argia zaukaten. Hatik, usheraren pertsonaia zendako hiltzen eta harrapitzten zen ez. Baina hori ez bazen egiten, etzen tobera kabalkada bezala izendatzen ahal besta hori. Sardeniako mendieta, zuten pantxekak aipatu du, italian badituzte joaldun gisako pertsonai batzuk, San Antoni zateatzen direna. Italiako adiskide entzuna dut, gaur egun besta bizi-bizidik dela, delako joaldun horiek beti bezala ateratzen direla, baina milaka behazale badela, eta norbaitek mikrotik esplikatzen duela errituala eta simboloa. Horren, giroa aldatzen duela, ez da dudarik. Besta horietan bada estetika bat, misterio bat, batzutan olerki kilika batzu ere, baina biziki hausko bat dira. Baduan, tradizioa eta sorkuntza zehera. Eran ezake gisa batez, hobidura, arrakastatxoa izan den sorkuntza bat dira. Benen horoz gainetik, tokian tokiko kodigo kulturaletan, edo postunrean, hobeki daiteko, untsak kokatzen den berrikuntza bat. Frangotan, sortzaileak nor izan diren ahantzia delari, danta, dantza edo kantua, hobi gurazkoa bilakatzen. Transmisio mekanismoek dutelarik gaina hartzen. Sortzaileak ez behitziren hain txego ere pertsona bakarti batzu, haizik eta pertsona batzu bizarte batean. Berden dela berrikuntzari eta horidurari irekia. Beha zepasatu den Siberu prinsipiozko punduekin, emeritzigaren benbeu darrean. Berrikuntza historikoki horbilago delarik maizuaren izena horreindik gogoan dugu, postimenta berri garazin. Horidura frangotan ahozkotasunari lotzen dugu, baina idatzitik pasatzen da ere beha iztuetaren kasua diruzkoa. Sokuntza, Ohidura bilakatzen da erakundetzen delarik, eran ebaita, erakundea sentzu soziologikoan, adibidez urtero errepikatzen delarik, eta erakunde guziekin gertatzen den bezala, noizpait sortuak izan zirela ahazten delarik. Thierry Truffaut kondatzen du, Lapurdiko herri batean, gazte batik aldentzakola, ihauteriak noiz danik egiten ziren herri hartan. Bertzeak iarretxin beti danik. Gertatzen hain txusen, eriortan trufo berak zuela tokiko gazteekin, oita marbat urte lehenago berriz abiarazia, aspaldidanik utzia eta ahantzia izan zen usaila hori. Betiko tasunein ilusioa, baina
Obiduraren txertoak hartu zuelako seinale ere. Eta herri hortan, iauteriak dauten azten, zen funtzio berriak betetzen zituelakotz. Beranaldien arteko harremanetan, gaztentzat kartier xahar eta berrien kurritzea, etxe izenen ikastea, berriz kastea, eta eskolaren erabiltzea ere. Batzutan, historioa erabiltzen dugu fogatzeko ere obidura aspaldiko dela. Adibidez, azken berroi urteotan galdu zen usaiua bat berriz abiarazteko, fogatzen dugu bortz mendez egintzela, eta beraz, berroi urte eskrafitxak. Tor bezadan, ene xokoan gizartako arrazoinamenduak egin ginoela, guk kabalkadak berriz abiarazi ginintuela. Lehen urtean itxasun, lautanoita hamabian, ginuen kabalkada, bina dantzak behizik ez ginintuen eman, antzerki hauzirik gabe. Hain txusen, lehen alko toberen horretzatena, oraindik gogoetan zirelakotz. Plazatik jeustean, entzun nintuen luhusoak xahar batzu elgarri eraiten. Polita zuen, mainan ez zituen toberak. Eta razoik zuten. Menan guk bertze zerbait nahi ginoen abiarazi, lehen algo formen parte bat erabiliz, hautu bat eginez. Eta ondoko aldietan sartu ginoen antzerkia eta erran nahia gaukotu ginoen noski. Gero batzutan, horrekin bururatzen dut, batzutan net trompatzen gira ere. Horrein duela zonbait urte, aitari esker, Michel Laregeriren gazte demorako paperetan aurkitu nuen dantza baten izena eta airea. Labegerik 1948an haltsun bildu zuen, izena Eper dantza. Bere ala piztu nuen ene baitan interpretazioaren masina, Eper dantza. Hori hain txego, xori izena gauzkaten mutil dantza eta dantza jauzia lotua. Fangotan errepikatzen den egitura dutena, bera beti puntu bat gehituz, egizue xoxoaren kantuan bezala, edo hain txusen Eper bat, Biper bat kantuan bezala. Gehi xoriaren simbolika, bezen ez zinema egin nuen hori neolitikotik data. Altsun da. Eta gainerat, oartu nintzen labe berriren informatzailea oraindik bizi zela. Beti altsun. Oion nintzaien masintatzela. Eta hene ametxetako lukinka desegin zautan, eran ez delako dantza horik, berak asmatua zuela. Bertze, eskualdun batzuekin, gerla demoran preso zirela Alemanian. Sorkuntza bat beraz, benen gero, hori dugarrik sortu ez zuen. Eta beritzen.
Merci beaucoup, Xavier. Donc, je propose de passer la parole sans trop tarder à la salle.